Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en ont lu qu'une page, aurait dit saint Augustin. En ces temps, nous avons besoin de nous évader. Je vous propose de continuer à découvrir le beau livre pour reprendre cette image qui est notre région Occitanie. Une balade commencée ou presque au début de ce deuxième confinement comme un pied de nez aux circonstances et qui nous emmène aujourd'hui à Conques dans l'Aveyron. Un site exceptionnel de beauté qui depuis près de 1000 ans abriterait les reliques de sainte foi martyre chrétienne des premiers siècles et dont le rayonnement ne relève pas que des livres d'histoire. Cap donc sur le nord de notre région, aux frontières du Cantal, pour une balade des plus dépaysantes, à la rencontre de l'histoire sainte toujours vivante de notre pays. Site exceptionnel d'Occitanie, cap sur Conques, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous accompagner dans cette balade, Anne Romière, vous travaillez à l'Office du tourisme de Conques, bonjour.
Oui, bienvenue à tout le monde.
Voilà, on vous entend à peu près correctement. Nous rejoindra plus tard Christiane Lapère, qui est artiste et habitante de Conques. Et nous sommes d'ores et déjà avec Pierre Adrien, vous êtes religieux prémontré et recteur de l'abbaye Sainte-Foy, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Cette semaine, cette émission, on continue nos balades en Occitanie, cap donc sur Conques, dans le nord de l'Aveyron, je l'ai dit. Donc en cette semaine de Radio Don, je rappelle que cette semaine, c'est votre semaine, chers auditeurs, puisque nous faisons appel à votre générosité pour cette radio qui vit en grande partie de vos dons. Faut-il vous redonner le numéro de téléphone pour nous soutenir et nous encourager? 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Alors, pour commencer cette balade, je vous propose d'écouter un extrait. C'est un extrait de la fameuse émission Des Racines et des Ailes. On va mettre nos pas dans les pas de certains pèlerins qui marchent sur les chemins de Saint-Jacques et qui arrivent à Conques.
Les pèlerins reprennent la route vers Conques, l'un des trésors de l'Aveyron. Accroché sur les pentes escarpées des gorges de l'Ouche, le village est construit autour de son abbatiale, chef-d'œuvre de l'art roman. Cette église a été édifiée au XIe siècle pour accueillir les reliques d'une jeune martyre, Sainte-Foy. Pendant des siècles, des milliers de pèlerins viennent la vénérer et aujourd'hui encore, c'est une étape incontournable. Après 13 jours de marche, le groupe découvre l'abbatiale de Conques telle qu'elle apparaissait aux premiers pèlerins de l'an 1000.
I see you saved the best for last.
Oh my God.
Wow.
Voilà, oh my God. Alors, Anne Romière, vous nous servez de guide. Je propose que l'on reparte d'un petit peu plus loin, qu'on comprenne un petit peu de hauteur pour commencer cette balade et qu'on aille au point de vue de Bancarel. Pouvez-vous nous dire à quoi ressemble ce point de vue et qu'est-ce qu'on y voit surtout?
Alors, le point de vue du Bancarel, c'est pas très loin. C'est à peu près, 20 minutes de marche pour les plus vaillants. C'est sur le versant opposé au village, je pense, une sorte de petit piton rocheux qui donne vraiment un point de vue exceptionnel sur le village et sur son abbatiale, donc cette fameuse vallée de l'Ouche, comme le point d'intro vous le disait.
Alors c'est donc une vallée qui est au croisement de deux rivières, ai-je lu, la Dourdou et l'Oude, si j'ai bien compris, ou l'Ouche, pardon. Chose étonnante, les deux qui se rejoignent formeraient une sorte de coquille, c'est ça, d'où le nom?
Alors la vallée en elle-même a une forme en coquillage, donc c'est vrai que quand on est en vol en hauteur, en hélicoptère ou en petit avion, comme ça peut se faire des fois, on voit bien cette forme un petit peu en forme de coquillage et c'est ce que, depuis ces points de vue, certainement, les fondateurs qui étaient les Carolingiens ont remarqué cette formation en coquillage et ont donné le nom latin de l'époque, concha, qui veut dire la coquille, qui est devenu après en occitan concas et en français conca, et comme disaient les Espagnols, conques.
C'est donc un des plus beaux villages de France. C'est un lieu classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y reviendra. Vous êtes fière de votre village, Anne Romière?
Alors moi, je suis fière, même si je n'y suis pas née. On fait partie de ces habitants parfois installés, mais qui sont venus par soit le travail, soit le cœur, soit la dévotion, qui font que ce village vit. C'est aussi un village avec des habitants, il ne faut pas l'oublier. C'est un village qui accueille à peu près 500 000 visiteurs par an, comme vous le disiez, donc classé parmi les plus beaux villages de France. Et depuis 1998, au titre des chemins de Saint-Jacques, l'abbatiale et le pont des pèlerins sont aussi classés à l'UNESCO.
Alors, 500 000 visiteurs pour combien d'habitants?
Alors, sur le bourg même, partie basse, partie haute, puisqu'on est à flanc de pente, il ne faut pas oublier ceux qui sont dans la vallée, évidemment, on est à peu près 90 habitants.
90
et
habitants.
Sur les environs, autour des 300, bien sûr, maintenant on est en commune nouvelle, donc on est un nombre d'habitants administrativement plus important. Mais pour historique, on est entre 80 et 90 habitants.
Alors, je vous propose qu'on continue cette balade. On va dire que donc on est parti du point de vue de Bancarel. Avant qu'on arrive à la fameuse, enfin dans le village et à la fameuse abbatiale, parlez-nous peut-être de cette petite chapelle, si j'ai bien compris, un tout petit peu à l'extérieur du village, la chapelle Saint-Roch, que l'on dit être un lieu une source miraculeuse.
Alors, il y a deux chapelles à Conques qui sont parfois confondues. Il y a celle de Saint-Roch qui est sur un petit piton rocheux en fond de vallée. Il y a celle de Sainte-Foy.
Ah voilà, Sainte-Foy.
Voilà, je m'excuse de contredire. Celle de Sainte-Foy qui est sur la vallée quand on part de Conques, quand on suit le chemin de Saint-Jacques. Donc, celle de Sainte-Foy est dite avec une source miraculeuse au pied du chemin avant la chapelle. C'est là que se serait arrêté le moine revenant d'Agen avec les reliques de Sainte-Foy, se serait assoupi. Sainte-Foy lui serait apparu en songe, lui aurait demandé avec une sorte de petite farce à sa façon, « Tu as soif, tu veux boire du vin pour un jour ou de l'eau pour toujours ?» Ce côté sage du moine a fait qu'il a choisi de l'eau. Son bâton heurte un rocher et de l'eau en jaillit. Donc, dans les siècles, ça va être un lieu de pèlerinage. Les gens vont aller vers cette chapelle.
Ça saute un tout petit peu, alors du coup, Pierre-Adrien va servir de relais pour la balade. On va vous rappeler tout de suite pour retrouver le guide que vous êtes. Pierre-Adrien, vous prenez le relais donc au pied levé d'Anne Romillère. Avant qu'on arrive à l'abbatiale, qui est ce lieu que vous connaissez particulièrement, puisque vous êtes recteur donc de cette abbatiale, l'abbaye Sainte-Foy, si on se balade dans le village, qu'on remonte la fameuse rue Charlemagne, si j'ai bien compris, qu'est-ce qu'on voit comme village, Pierre-Adrien?
Alors, juste avant de remonter la chapelle Sainte-Foy, il faut traverser le Dourdou, et là, on est sur un magnifique pont classé à l'UNESCO, qui est le pont romain, ou pont des Roumieux, c'est-à-dire le pont des pèlerins. Voilà. Et puis ensuite, on monte la rue Charlemagne, c'est une côte assez forte, avec des belles maisons anciennes, à Colombages notamment. Et puis, on va arriver tout en haut, au cœur du village, en face du Saint-Jacques, et puis on tourne à droite et on arrive sur le parvis de l'église.
Alors on retrouve Anne Romillère et puis nos pèlerins qu'on entendait tout à l'heure dans cet extrait donc, de l'émission, la fameuse émission des racines et des ailes. Anne Romillère, en espérant que la connexion est meilleure, quand on arrive,
oui,
quand on arrive devant cette abbatiale, c'est donc une splendide abbatiale romane. La première chose qui frappe, c'est un extraordinaire tympan. Est-ce que vous pouvez nous le décrire?
Alors c'est un tympan qui est exceptionnel de par son côté conservé et le nombre de personnages. On est sur un tympan, une sculpture sur le porche de l'abbatiale du XIIe siècle, avec encore des vestiges de couleurs, 124 personnages qui représentent le jugement dernier selon les préceptes religieux dictés à cette époque. Donc c'est un foisonnement de personnages, autant pour le côté paradis que le côté enfer. C'est assez exceptionnel, les gens sont souvent très surpris par l'état de conservation de ce joyau de la sculpture romane.
On rentre donc dans l'abbatiale Sainte-Foy, c'est donc, je disais, donc une abbatiale romane. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une abbatiale romane assez exceptionnelle, Anne Romillère?
Alors c'est exceptionnel parce que là on est sur le fin de l'âge roman, ce qu'on qualifie âge roman. On est sur des dimensions exceptionnelles, on a 22 mètres 10 sous voûte, des largeurs et des hauteurs impressionnantes, c'est ce que remarquent souvent les pèlerins, beaucoup de luminosité, on est en tout 104 verrières ornées avec actuellement les vitraux de Pierre Soulages. Bon, ce qui est frappant, c'est surtout cette dimension de monument dans un village qui est somme toute assez petit et concentré autour de ce monument.
Alors j'ai lu que c'était un trésor aussi de l'art roman et même de l'art carolingien, ai-je bien compris?
Alors, on est sur l'abbatiale, donc la fondation est d'époque carolingienne. L'abbatiale allemande, 11e, 12e, c'est bien après l'époque carolingienne. Mais on a à côté de l'abbatiale un trésor d'orfèvrerie, fondé donc par les premiers moines au 9e siècle, suite à l'arrivée des ossements de Sainte-Foy, et doté de joyaux et de bienfaits par les premiers fondateurs, donc Charlemagne et son fils Louis le Pieux, et agrémenté de donations au fil des siècles, au fil du millénaire, puisqu'on a 1000 ans d'ornementation au niveau de ces reliquaires. C'est un trésor unique en France, sauvé par les habitants à la Révolution française.
Il faut dire aussi que c'est un lieu qui a été en son temps restauré, entre autres par un certain Prosper Mérimée, en tout cas à son initiative, qui était inspecteur des monuments historiques, faut-il le rappeler, cet écrivain, qui se serait exclamé quand il est arrivé ici qu'il n'était nullement préparé à trouver tant de richesses dans un pareil désert. Est-ce bien une citation connue en ce lieu ?
Tout à fait, c'est tout à fait connu et c'est ce que les visiteurs ou pèlerins de tous bords découvrent un peu stupéfaits quand ils arrivent à Conques, parce que Conques se mérite déjà par les chemins tortueux. Et on ne voit qu'à la dernière minute. Donc on a traversé soit les routes tortueuses, soit les chemins et les boisés. Et tout d'un coup, pouf, ça surgit. Et on peut comprendre l'émerveillement aussi de Prosper Mérimée à ce moment-là, sachant que l'église était encore bien entretenue. Il n'y avait pas eu trop de ruines au niveau de l'abbatiale, même s'il y en a eu à restaurer. Donc c'était assez exceptionnel pour cette époque aussi, et ça l'est toujours de nos jours.
C'est donc un des grands lieux, un des grands sites d'Occitanie, et ce depuis 2009. Quand le confinement sera fini, pourquoi faut-il venir à Dromières ? J'entends déjà évidemment pour découvrir la beauté du lieu, mais peut-être aussi pour soutenir tous ceux qui y vivent. J'ai cru comprendre qu'il y avait un restaurant étoilé dans ce village, un centre européen d'art et de civilisation médiévale. J'imagine qu'un certain nombre de personnes tirent la langue et qu'ils seront heureux d'être visité et soutenu aussi.
Alors Conques, c'est comme un lieu de vie, hein, comme une petite ville en miniature. C'était d'ailleurs une ville au Moyen-Âge. Donc de nos jours, on a bien sûr des hôtels, peut-être pas tous ouverts l'hiver. On a aussi beaucoup d'artisanat d'art. Ensuite, c'est un lieu de ressourcement, puisque la nature nous environne. Beaucoup d'activités de loisirs peuvent être pratiquées, que ce soit en groupe, individuellement ou en famille. On a des circuits trail, on a des circuits de randonnée. On n'est pas très loin de la vallée du Lot, donc il y a ce côté très bucolique qu'on recherche souvent quand on traverse peut-être des crises particulières. Et il y a aussi bien sûr tous ces artisans, restaurateurs qui se démènent en ce moment pour pouvoir maintenir à flot leur activité, même s'ils sont eux-mêmes fermés parce que c'est presque la période hivernale, ils sont quand même là, ils sont présents et c'est important d'être solidaire aussi de ce côté-là.
Voilà, Conques, un lieu à découvrir. On va faire une première pause et puis après on va découvrir un peu l'histoire sainte de ce lieu. Avec vous, Pierre-Adrien, vous êtes, pour rappel, religieux prémontré et recteur de cette abbaye de Sainte-Foy. On vous retrouve dans quelques instants.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Site exceptionnel d'Occitanie Cap sur Conque, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous accompagner, était avec nous au début d'émission Anne Romillière, qui travaille donc à l'office de tourisme de Conque. Est avec nous Pierre-Adrien, religieux prémontré, recteur de l'abbaye Sainte-Foy, et nous a rejoint Christine Lapère, artiste. Bonjour Christine.
Christiane, bonjour.
Voilà. Il faut dire que vous êtes tous par téléphone parce que vous êtes loin et parce qu'on est confinés. Et donc, on essaye de faire des prouesses comme chaque jour au long de cette année. C'est une des raisons de nous soutenir. On essaye de faire de notre mieux chaque jour pour vous accompagner, chers auditeurs, et vous donner le meilleur. Le meilleur, en l'occurrence, c'est Conque ce matin qu'on vous aide à découvrir. Je vous rappelle un numéro de téléphone pour nous soutenir à l'occasion de ce radio don 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00. Nous avons besoin de vous, cette radio, c'est la vôtre. Pierre-Adrien, on vous prend la main après avoir quitté celle d'Anne Romillière pour rentrer donc dans cette belle abbatiale qu'on a commencé à découvrir. Et nous vient tout de suite une question à propos de Sainte-Foy. Qui était Sainte-Foy, tout simplement, martyr des premiers siècles, martyr du pays d'Agen, ai-je bien compris?
Oui, c'est une petite martyre. En 303, sous la persécution de Dioclétien, elle a environ 13 ans au moment où ça lui arrive, et face au gouverneur dacien qui va par tous les moyens en essayant de la soudoyer, de la corrompre, de la menacer, il va la jeter en prison, il va la faire fouetter, la torturer. Malgré tout, cet enfant va tenir bon. Elle dira « Je m'appelle Foy, c'est mon nom et c'est ma vie ». Et elle va mourir martyre, entraînant avec elle une partie des chrétiens du village qui, devant son attitude, vont sortir de leur cachette. Et puis assez rapidement, on va venir la prier et elle sera réputée faire des miracles.
Alors juste
sur sa tombe.
Pierre-Adrien, son existence, quand j'ai essayé de lire le martyrologue, entre autres, était sujet à interrogation. Vous avez l'air d'être assez affirmatif, donc cette Sainte-Foy a bel et bien existé.
Ah oui, ça c'est pas contesté, de même que l'arrivée des reliques à Conque. Ça c'est pas en...
Alors
on peut se poser la question des miracles, mais en revanche sur l'historicité du martyr de Sainte-Foy et la venue de ses ossements à Conque, ça ne prête pas à
interrogation. Alors racontez-nous l'arrivée de ces reliques. C'est donc un moine qui serait à l'origine de l'arrivée de ces reliques et qui serait allé les chercher ailleurs, mais c'était une pratique en fait à l'époque qui n'était pas si rare.
Oui, c'est ce qu'on appelle les pieux larcins. Alors, il faut savoir que pour le coup, ça, d'un point de vue historique, c'est pas du tout sûr. C'est même probable que ce soit une aventure épique qui soit racontée. On est dans la société féodale et en fait, on a affaire à un enlèvement un peu amoureux, un enlèvement pieux de Sainte-Foy qui, pendant 10 ans, la courtise par sa sainteté, sa piété, et puis au bout de 10 ans. Quand l'ensemble des habitants d'Agen sont en train de faire la fête à l'Épiphanie, eh bien, il emporte sa belle et la ramène à Conque. Et les miracles vont pleuvoir, c'est bien la preuve que Sainte-Foy est d'accord.
Alors, quid de ce livre des miracles? On se baladait il y a 2-3 semaines à Rocamadour, où il y a aussi un livre des miracles. Si on l'ouvre avec vous, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Qu'est-ce qu'on peut y exhumer comme histoire?
Alors, il date de 1013, hein, ce livre, il est assez ancien. Et on lui raconte surtout, on nous dit que les miracles les plus courants, et d'ailleurs je pourrais en attester aussi, c'est la libération des prisonniers. Mais le miracle retentissant qui se passe aux alentours de l'an 1000, c'est la guérison de Guibert l'Illuminé, un homme qui s'était fait arracher les yeux par son parrain prêtre, par jalousie. Et alors qu'il était allé pieusement vénérer Sainte-Foy, au retour, son parrain, Géraud, lui arrache les yeux, croyant qu'il était allé voir une femme. Et un an après, Sainte-Foy lui apparaît, il va en pèlerinage à Conque, et en prière dans l'abbatiale dans la nuit, il voit, entre guillemets, puisqu'il n'a plus Dieu, il voit Sainte-Foy lui apparaître, il voit des globes de feu plutôt, qui vont lui arriver dans les yeux, il tombe dans les pommes, et le matin, au chant des matines, eh bien, il voit. Alors, ce miracle a été retentissant au Moyen-Âge. On peut même imaginer que la construction de l'église du 11e, 12e n'est pas étrangère à ce miracle-là.
Il faut dire donc que Sainte-Foy a une réputation aussi mondiale. Hein. Santa Fe, comme c'est un nom qui revient souvent en Amérique latine, ne vient que de là. Sainte-Foy, c'est aussi on va dire, une tradition bien vivante, une sainte qui est priée et qui a, selon vous, donc un rôle bien particulier au regard de son histoire. Ça serait comme une sainte patronne, en fait, des prisonniers, des persécutés. C'est une attention que vous avez. Vous soutenez même, ou dans son sillage, s'est créée une association qui s'appelle l'association Limbo. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette, comment dire, de cette tradition que vous essayez de faire vivre ici à Conques?
Oui, comme dans le livre des miracles, on nous dit que ce sont les miracles les plus courants. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose dans cet ordre-là. Elle fait d'autres miracles, hein. Elle a notamment donné naissance à deux enfants d'Arsinde, comtesse de Toulouse. Alors, beaucoup de gens viennent la prier et j'ai vu des personnes attribuer leur naissance à Sainte-Foy. Mais les prisonniers, c'est vraiment, enfin, chaque année, la France est condamnée pour sa gestion des prisonniers et c'est vraiment souvent une situation assez dramatique. Et on nous dit qu'elle libère les prisonniers isolés, innocents ou coupables. Alors, on a découvert que beaucoup de réfugiés, notamment qui sont passés par la Libye, mais avant ça dans le désert du Sinaï, étaient capturés, torturés affreusement. Et donc, on s'est dit, on va faire quelque chose pour eux. Alors, ça a donné lieu, c'est toute une aventure, ça serait trop long de vous raconter, mais grâce à ça, on a eu une famille de réfugiés érythréens qui arrivaient à Conques. On a eu aussi des jeunes migrants du Mali qui sont venus et puis d'autres pays. Et puis, c'est créé un peu à Conques une réalisatrice, Cécile Allegra, l'association Limbo, qui vient en aide aux réfugiés ou aux demandeurs d'asile qui ont vécu des choses terribles. Alors, ils viennent faire des vacances de résilience à Conques.
C'est ça. Alors, vous, donc, il y a comme des retraites qui sont organisées pour eux. Qu'est-ce qu'ils viennent faire à Conques à l'occasion de ces temps?
Eh bien, Conques, c'est beau. C'est extrêmement calme. Il n'y a pas de bruit de voiture. C'est enraciné dans l'histoire. On est connecté à la nature. Donc c'est un lieu qui est très propice à une reconstruction. Et c'est beau aussi, la beauté ça aide à se reconstruire, à sortir de son malheur pour redécouvrir que la vie est belle. Et donc ils vont y faire de l'art-thérapie et puis ils vont essayer de prendre du temps, un peu prendre souvent les situations quand on est demandeur d'asile ou réfugié ne sont pas simples au début. Et donc essayer de faire une pause, une espèce de rupture pour se relancer dans la vie. Voilà, et il y a des très belles histoires.
On y reviendra, entre autres, cette famille d'Érythréens dont vous nous avez parlé. Il y a une autre réalité donc à Sainte-Foy, c'est donc les chemins de Saint-Jacques. C'est une étape importante sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. On entendait au début, via donc ce reportage de Des Racines et des Ailes, des pèlerins arrivés, des pèlerins, semble-t-il, d'origine américaine, qui s'exclamaient en arrivant devant votre abbatiale « Oh my God ». On est à combien de jours de marche du Puy-en-Velay après quelle, on va dire, quelle traversée on arrive à Conques?
Une dizaine de jours, voilà, après 10 jours, dont la traversée fameuse de l'Aubrac. Certaines personnes disent que c'est la plus belle partie du chemin de Saint-Jacques et que Conques est l'une des plus belles, voire la plus belle étape.
Alors après, justement, il y a tout, en fait, quand on connaît un peu le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, il y a tout un processus intérieur. Donc on est parti du Puy-en-Velay, on a traversé ce plateau qui est quand même, il faut le dire, un désert. En général, les pèlerins arrivent dans quel état d'esprit? Qu'est-ce qu'il y a en quoi est-elle marquante, cette étape de Conques?
Ah, c'est notre avantage. Comme ils ont marché 10 jours, ils sont prêts. Enfin, il y a tout un travail qui s'est fait. Ils ont pu se déconnecter du monde, de leur téléphone, de leurs contraintes administratives. Et ils ont le cœur disponible et ils sont là stupéfaits par la beauté du site, hein, qui est absolument remarquable, et par l'ambiance de Conques, hein, chaque soir. Il y a quelque chose à ne pas manquer, c'est la soirée de Conques, à 20h30, les complies et la bénédiction des pèlerins, où il y a une centaine de pèlerins, voire plus l'été. Et puis ensuite, frère Jean Daniel leur présente le tympan, d'une façon très, 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 très imagée, très, très sympathique.
Vous-même,
Et puis ensuite,
vous les accueillez parfois, Pierre-Adrien, vous êtes aussi parfois le frère qui se tient sur le parvis. Qu'est-ce que vous leur dites? Quels sont les premiers mots peut-être de la visite?
Ça dépend, il faut s'adapter. Nous, on s'adapte aux gens, on n'est pas voilà, on pratique l'hospitalité, donc on n'a pas un schéma absolu. Donc je ne sais pas vous répondre. Je voulais juste dire, après, quand même, si c'est important, après la présentation du tympan, il y a un concert d'orgue qui est à peu près toujours le même et qui touche les cœurs et qui libère les cœurs. Et donc des gens voilà, peuvent se libérer. Il disait que c'est un lieu de libération et on voit des gens qui reprennent pied à Conques.
Alors, l'un de vos frères, quand on se balade sur votre site internet, le frère Arnaud, disait que ici, à Conques, vous vous devez un service de l'écoute et un service de la table. Comment est-ce que vous accueillez ces pèlerins? On entendait tout à l'heure Anne Romière dire qu'il y avait 500 000 personnes qui passaient par an. On imagine que c'est pas autant de pèlerins. Comment vous y prenez? Quelles sont un peu, quelle est le, on va dire la ligne que vous essayez de suivre avec vos frères sur ce sujet?
Alors, d'abord, on a une hôtellerie avec une centaine de lits, des dortoirs, des chambres. Mais il n'y a pas que nous hein, qui accueillons, qui logeons. Hein. Il y a d'autres lieux. Et puis, on est aidé par des hospitaliers, c'est-à-dire des gens qui ont fait le chemin et puis qui ont été touchés et qui veulent rendre hein, ce qu'ils ont reçu. Ils m'ont donné des vrais cours d'hospitalité. Donc on leur assure, on essaye que leur séjour à Conques se passe bien pour qu'ils puissent avoir le cœur disponible et pouvoir en recevoir quelque chose. Alors on est aussi présent pour l'écoute, les confessions. On est 8 frères et sur les 8, il y en a 7 qui sont prêtres. Donc on peut assurer les confessions. Il y a les offices, hein, comme on est une communauté religieuse, on est prêt de montrer, on aime beaucoup la liturgie et la liturgie de l'office, les laudes, les vêpres, les complies. Et donc on anime et on vit le lieu et on essaye que ce soit pas un lieu touristique, mais vraiment un lieu spirituel.
Alors vous êtes, semble-t-il, marqué par l'hospitalité en ce lieu, vous-même, donc vous dites qu'à titre personnel, ça vous a beaucoup marqué. Est-ce que vous avez une histoire qui nous dit comment vous êtes rendu de plus en plus sensible à cette réalité?
Ah oui, moi je reçois des cours des hospitaliers qui m'ont appris la vertu de l'hospitalité qui pour moi est devenue absolument essentielle. Parce que comment puis-je accueillir Dieu? Comment puis-je accueillir le Christ qui vient dans ma vie si je ne sais pas accueillir l'autre? Et c'est pas sûr que le Christ se soit semblable à moi. Au contraire, à mon avis, il vient peut-être comme un étranger nous bousculer. Et accueillir un pèlerin, c'est accueillir un étranger. On ne le connaît pas et on va l'accueillir. Et alors du coup, on laisse tomber tous les préjugés, vous voyez, les préjugés sociaux, on va pas demander quel boulot tu fais sur le chemin de Saint-Jacques. La question qu'on aime demander, c'est d'où viens-tu? Et par rapport à notre société qui a du mal hein, à ce que les milieux sociaux se rencontrent. Sur le chemin, tout se brasse. Et je pense que le monde irait vraiment beaucoup mieux si on redécouvrait cette grande vertu
Alors votre...
qui est totalement chrétienne, hein. Alors, par exemple, j'ai une histoire. Un jour, j'avais vu un type, il était couvert de tatouages. Il avait été dans la rue, et il avait eu une vie probablement délinquante. Enfin voilà, il avait été marqué par une histoire difficile. Et il m'avait raconté les larmes aux yeux qu'un jour il se retrouve à table, et puis avec des pèlerins super sympas sur le chemin. Alors à la fin du repas, il leur dit: oh, qu'est-ce que vous êtes sympa, mais qu'est-ce que vous faites comme métier? Alors moi qui dis ben moi c'était 3 amis, moi je suis policier, et l'autre dit moi je suis magistrat, et l'autre dit moi je suis procureur. Alors il dit mais comment ça se fait que vous soyez pas toujours sympa comme ça? Voilà, il n'en revenait pas d'avoir vécu ça, par exemple.
Voilà, Sainte-Foy donc, et sa magnifique abbatiale qui se trouve donc sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver ainsi que Christiane Lapeyre qui est donc artiste et qui vit à Conques et qui a une belle histoire, qui est une figure chrétienne de ce lieu, puisque c'est la tradition à l'occasion de cette émission de finir cette émission en voyant donc un beau témoin de ce lieu. Je vous rappelle, chers auditeurs, que nous sommes en pleine semaine de Radio Don. Voilà, n'hésitez pas à nous soutenir. On essaie de tous les jours de faire des miracles pour vous servir au mieux et vous redonner le goût de vivre dans votre région et l'espérance qui va avec. Un seul numéro de téléphone, 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. On retrouve nos invités dans quelques instants.
Présence à Saint-Cirq-la-Popie, 92.5.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Site exceptionnel d'Occitanie, Cap-sur-Conques, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. En cette semaine de Radio Don, à l'occasion de ce mardi, nous mettons donc le cap sur le nord de notre belle région, en ce lieu donc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998 et qui est aussi un grand site d'Occitanie. Avec nous dans cette émission était avec nous Anne Romillère au début de l'émission, donc de l'Office du tourisme de Conques, le père Pierre-Adrien, religieux prémontré et recteur de l'abbaye Sainte-Foy, et donc vous, Christiane Lapeyre, vous êtes donc artiste et vous êtes habitante de Conques, mais ça n'a pas toujours été le cas. Racontez-nous en quelles circonstances vous êtes venue ici et le coup de cœur que vous avez eu pour ce village.
Eh bien, j'habitais dans les Alpes de Haute-Provence et je suis venue voir les vitraux de Soulages en mars 2006. Parce que j'étais avec une amie québécoise qui avait envie de voir la région. Donc, elle voulait aller à l'Aïole. Et quand j'ai vu sur la carte que Conques était si près de l'Aïole, je dis depuis que Soulages a fait les vitraux, depuis 93-94, j'ai qu'une envie, c'est d'aller les voir de près.
Alors, à quoi ressemblent ces vitraux et qu'est-ce qu'ils ont d'aussi exceptionnel, Christiane Lapeyre?
C'est les vitraux de la lumière, c'est les vitraux... c'est des vitraux qui font rentrer, voilà, la lumière dans l'abbatiale. Et quand on voit la vidéo qui montre la dépose des anciens vitraux pour mettre les nouveaux, on voit l'abbatiale noire. Il n'y a pas de lumière dedans, c'est très sombre. Et là, même quand, comme aujourd'hui, nous avons du brouillard par un temps brumeux, on a une lumière incroyable qui rentre dans l'abbatiale. Et quand il y a le soleil, alors là, c'est encore plus merveilleux. Et donc, voilà.
Alors, vous êtes arrivé donc dans ce village et vous avez eu un coup de cœur. Vous m'avez dit que vous vous êtes baladé, vous avez découvert une belle maison qui était en travaux. Vous avez commencé à discuter avec la personne qui rénovait cette maison. Voilà, cette personne est aussi un artiste à sa manière, et puis s'en est suivie une correspondance épistolaire entre vous, et vous vous êtes rencontrés, et vous vous êtes aimés, et vous vous êtes installés à Conques. C'est une belle histoire. Quand vous êtes arrivé dans ce village, vous avez, semble-t-il, aussi rencontré les frères Prémontré, et dont un qui vous a un petit peu secoué et interpellé. Racontez-nous.
Oui, c'est le frère Jean-Régis. Qui mangeait à la maison et au cours du repas, il me dit « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Alors, j'ai dit « Je ne sais pas, je pense que j'ai une vie spirituelle, mais est-ce que je crois en Dieu ?» Alors, il me dit « C'est bête ce que je viens de te demander. Toi, tu ne le sais pas, c'est normal, mais lui, il le sait puisqu'il t'a choisi. Wow, » Waouh, choisi par Dieu, mais ça change tout. Et alors, voilà, comment... j'ai vécu là une espèce de retournement et voilà. Et je pense que si je n'étais pas venue à Conques, si je ne m'étais pas installée à Conques, je ne serais sans doute pas revenue à la vie spirituelle, une vie spirituelle aussi riche que ce que je vis ici.
Alors, vous dites justement qu'à propos de Conques, il y a quelque chose de particulier, notamment à l'abbatiale. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce sentiment que vous avez quand vous rentrez dans cette belle abbatiale à la tradition multiséculaire ?
C'est une impression de... Il y a une force, une énergie incroyable quand on rentre. Et quand on fait le tour de l'abbatiale, selon les endroits où l'on passe, on sent, enfin je sens, parce que je ne sais pas si tout le monde le sent, moi je sens une énergie apaisante. C'est quelque chose qui apaise, qui équilibre. Et donc ça fait beaucoup de bien.
Frère Pierre-Adrien, vous avez parlé de cette famille érythréenne. Christiane Lapeyre va nous raconter un petit peu la relation qu'elle a avec elle. Dites-nous un mot peut-être davantage de cette famille que vous avez accueillie avec des villageois il y a quelques temps de cela, famille avec quatre enfants. Pourquoi cette démarche et qui est cette famille ?
Pour moi, c'est la plus belle aventure qui nous soit arrivée ces dernières années. L'accueil de cette famille de réfugiés. Quand on avait découvert la situation des Érythréens qui étaient capturés dans le Sinaï grâce à un documentaire Voyage en barbarie, on a fait un colloque avec des Érythréens, avec toute la diaspora et des gens impliqués dans la défense des droits de l'homme. Et à la fin de ce colloque, qui nous a beaucoup marqué, on s'est dit, mais on ne peut pas dire, bon, ben voilà, on a fait notre colloque, on a parlé du sujet, maintenant on passe à autre chose. On s'est dit, ben, maintenant on connaît la situation de l'Érythrée qui est présentée comme une des pires dictatures du monde, à l'égal de la Corée du Nord. Et donc, c'est un pays que personne ne connaît, alors pourquoi est-ce que nous, on n'essayerait pas d'accueillir une famille de réfugiés ? Et comme il y avait des gens du ministère des Affaires étrangères ou de l'Intérieur qui étaient là à notre colloque, eh bien, on s'est dit, allez, on y va, il y a des habitants, ça sera super, on va mieux se connaître entre habitants, on va vivre une aventure commune. Alors, ça n'a pas été sans difficulté, parce que ça faisait peur, parce qu'il y avait des oppositions, il y a des clivages droite-gauche, tout ça. Mais rétrospectivement, c'est vraiment une très, très belle chose qu'on a fait. Aujourd'hui, cette famille est parfaitement intégrée, et les enfants se débrouillent très bien en classe.
Donc c'est une famille,
cette famille est une chance en fait pour notre village. Je pense qu'on est nombreux à penser ça.
Voilà, cette famille qui est arrivée il y a 4 ans. Alors, Christiane Lapeyre, vous faites partie quelque part des anges gardiens de cette famille. Vous m'avez dit que donc vous les accompagnez, entre autres pour faire leurs devoirs, qu'ils n'hésitent pas à monter chez vous puisqu'ils habitent eux en bas du village pour venir chercher votre aide et puis votre affection. Vous avez aussi avec votre mari, si j'ai bien compris, contribué à créer l'association Jamais sans toi comme un prolongement prolongement peut-être hein, de cette attention donc à toutes ces personnes qui est ici si importante dans la ligne de Sainte-Foy. Dites-nous quelques mots à propos de cette association pour finir. Christiane Lapeyre.
Oui, on l'a fondée il y a 4 ans et 6 ans. Nous faisons appel à dons. Nous vivons avec les dons des gens. 5 euros par mois si on est 100 personnes, ça fait une famille de logés. Et on paye le loyer, les charges, c'est-à-dire l'électricité et l'eau. Et donc, depuis que nous existons, nous avons accueilli... Alors, nous accueillons des familles de migrants déboutés du droit d'asile, c'est-à-dire des familles qui sont rejetées à la rue en sortant du CADA et qui n'ont aucune ressource. Ils n'ont pas le droit de travailler, etc. Donc, nous avons accueilli 30 et quelques familles, 36 peut-être, je ne sais plus. Voilà, et puis on nous avait dit, vous savez, on n'arrivera jamais à leur faire avoir des papiers. Et puis, ben non, si, c'est pas vrai, à force de s'accrocher, de refaire les dossiers, de les entourer, etc., de les soigner aussi, eh bien, on est arrivé à sauver déjà, ça doit être une vingtaine de familles. Et il en reste encore 18, je crois.
Voilà, merci de cette belle aventure. Donc Christiane Lapeyre, vous êtes donc une des habitantes et un des témoins de ce lieu, témoin de cette attention de Sainte-Foy à toutes ces situations extrêmes qui est encore aujourd'hui bien vivante. Pour ceux donc qui voudraient en savoir plus et qui demain voudraient se rendre là-bas, eh bien on peut aller sur le site de l'Office du Tourisme, bien sûr, www.tourisme-conque.fr. On peut aussi aller donc sur le site de l'abbaye de Sainte-Foy où vous tapez abbaye de Sainte-Foy, vous pourrez faire connaissance davantage aussi avec la communauté des Prémontrés. Un grand merci à vous de vous être rendu présent ce matin pour nous faire découvrir ce beau lieu, un de ces grands sites d'Occitanie. Je vous rappelle, chers auditeurs, que c'est notre semaine de Rayodon. Et donc, avant de vous quitter, je ne peux que vous encourager à nous appeler. Cette radio, c'est la vôtre. Elle vit essentiellement de dons. Je le disais hier, un émetteur, c'est 10 000 euros. On essaye de rejoindre, par exemple, toutes les vallées des Pyrénées. Récemment, on a installé un émetteur dans une vallée là-bas. Les petits dons et les grands sont les bienvenus au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.